La chronique des nouvelles francophones du Canada en compagnie de Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Francopresse. Bonjour Julien.
Bonjour Hélène.
De nouveaux pouvoirs de sanctions pécuniaires pour le commissaire aux langues officielles.
On parle de sanctions monétaires dans certains cas. En fait, c'est que le monde, l'univers des langues officielles au Canada, et en particulier la francophonie canadienne, attend avec impatience les trois nouveaux règlements qui vont permettre de mettre en œuvre plusieurs nouvelles sections de la loi sur les langues officielles modifiées. Je vous rappelle que cette loi-là a été votée en juin 2023, donc ça fait plus de deux ans et demi qu'on attend ces nouveaux règlements-là. Fait que la semaine dernière, et d'ailleurs c'était à peu près deux jours avant sa démission, là, le ministre de l'Identité canadienne et des langues officielles, Stephen Guilbeault, a déposé le premier règlement. C'est celui qui concerne un des nouveaux pouvoirs du commissaire aux langues officielles, qui est de remettre des amendes à des entreprises de transport qui relèvent du fédéral. Dans ce cas-ci, on parle de Air Canada, Marine Atlantic, Via Rail et des autorités aéroportuaires, là, c'est-à-dire les administrations des aéroports. Les amendes peuvent être assez salées. Ça peut aller de 5 000 à 50 000 $. Ça dépend du règlement, du type de faute qui a été commise par rapport aux langues officielles. Ça s'applique surtout sur des communications ou des services qui auraient dû être rendus en français ou demandés puis qui ne l'ont pas été. Fait que le règlement doit quand même suivre le processus normal au Parlement. Il va falloir attendre, il n'est pas en vigueur tout de suite. Le commissaire nous dit qu'il l'observe, qu'il l'inspecte pour être sûr que ça répond à toutes ses attentes.
C'est la Journée internationale des personnes handicapées et vous avez une nouvelle sur l'accessibilité tirée du courrier de la Nouvelle-Écosse, Julien.
Oui, parce qu'on réfléchit à ça présentement dans la ville de Clare, qui est située sur le bord de la baie de Fundy, sur la côte nord-ouest de la Nouvelle-Écosse. Donc, cette municipalité-là tente d'adapter ses installations pour les personnes à mobilité réduite. Puis, en Nouvelle-Écosse, d'ailleurs, on s'est fixé l'objectif de devenir une province sans obstacles d'ici 2030. Donc, toutes les municipalités doivent y participer. Donc là, il y a environ 7600 habitants, puis ils révisent eux aussi en ce moment leur plan d'accessibilité. Il y a donc une série de journées portes ouvertes qui ont été organisées, puis les résidents peuvent donner leur avis et proposer des changements. La plus grande difficulté qui est rapportée par les résidents de Clare, c'est le transport adapté. Il y a une compagnie qui assure ce service-là, c'est pas parfait, évidemment, comme n'importe quoi, et c'est pas toujours disponible. Donc, la plus grande partie des recommandations tournait autour de ça. Clare travaille quand même depuis plusieurs années sur son plan d'amélioration, puis l'accessibilité des résidents a eu des changements tangibles, du moins rapportent les résidents. Comme on a ajouté des trottoirs, puis il y a beaucoup plus de portes automatiques sur les édifices municipaux. Puis il y a une dame qui participait aux consultations à qui le courrier a parlé, qui elle dit, quand elle a commencé à s'intéresser à ces aménagements-là, c'est pour aider les autres, mais maintenant qu'elle vieillit, elle réalise qu'elle va pouvoir en profiter elle aussi.
Une association d'aide pour les jeunes afro-descendants à Toronto grandit, c'est dans l'Express.
Oui, il s'agit de le nom de l'organisme, c'est Point Ancrage Jeunesse. Ça existe quand même depuis quelques années, mais ils ont connu beaucoup d'expansion au cours de la dernière année. Là, leur budget a augmenté. Il y a plus de services et de programmes qui sont offerts. Et ils viennent de se lancer dans l'élaboration d'un véritable plan stratégique pour bien desservir leur communauté. Le groupe a été créé parce que les jeunes noirs francophones en Ontario et à Toronto ont des enjeux qui sont différents des autres jeunes et des autres francophones, jeunes ou pas jeunes. Selon la présidente Edwidge Gum, près de 40% des jeunes disent faire face à des obstacles systémiques à l'emploi ou à la reconnaissance de leurs compétences à Toronto. Aussi, plus de un sur trois, disent avoir des difficultés d'accès à des services culturellement adaptés et en français. Reste là-dedans aussi le racisme, les enjeux de santé mentale et le sentiment d'isolement qui reste des défis majeurs pour leur bien-être. Les questions au cœur de la mission de Point Ancrage Jeunesse, c'est aussi de multiplier les partenariats avec les établissements scolaires pour donner plus de chances de développement professionnel à des jeunes. On parle de stages, entre autres, au Collège Boréal.
Par ailleurs, des choix politiques du gouvernement de l'Ontario qui inquiètent les francophones.
Il y a une députée libérale de l'Ontario, de l'Est ontarien, Lucille Collard, qui avait déposé un projet de loi à Queen's Park qui visait à protéger les librairies franco-ontariennes qui restent. Là, il y en reste à peu près trois dans la province. L'objectif, c'était de créer un système d'accréditation pour ces librairies-là qui forcerait un peu les écoles et les établissements scolaires francophones à s'approvisionner en livres et en manuels chez elles. C'est une des raisons pourquoi les librairies francophones survivent pas en Ontario. À Sudbury, par exemple, on a eu une librairie jusqu'à tout récemment, et il y en a eu d'autres avant qui ouvrent, qui fonctionnent à bout de temps, puis qui finissent par devoir fermer parce qu'ils n'ont pas assez de volume de vente. Et ce qu'on dit, c'est que ça prend à peu près 50% des ventes doivent venir du milieu scolaire. Sinon, on ne peut pas faire assez d'argent pour rester ouvert. Donc, c'est sans être forcé, ces petites librairies-là font affaire à une concurrence, sont face à une concurrence un peu inégale par rapport aux grands fournisseurs. Le Parti conservateur de l'Ontario a voté contre le projet de loi. La députée franco-ontarienne est évidemment très déçue de constater qu'ils ne souhaitent pas protéger la culture et la langue française plus que ça en Ontario, et surtout qu'ils n'ont pas fourni d'explication pourquoi ils ont voté contre.
On comprend sa déception. L'Alberta perd son élan dans les énergies renouvelables, c'est dans le franco.
Ben oui, au lendemain de l'annonce de l'entente entre l'Alberta et l'Ottawa pour l'éventuelle construction d'un nouvel oléoduc, le Franco avait produit un dossier dans son journal pour rappeler que l'Alberta, qui était une puissance énergétique, mais détenait aussi jusqu'à tout récemment le titre de championne de la production d'énergie électrique renouvelable. En 2023, 92% des projets d'énergie propre au pays étaient construits en Alberta. Quand même beaucoup. Ça a changé lorsque le gouvernement de Daniel Smith a instauré un moratoire sur la production d'énergie, d'électricité propre là, en début 2024, je crois. Depuis, les investissements ont chuté beaucoup dans la province. Puis, par exemple, il y a une entreprise qui est passée de l'installation de plus de 1500 MW par année là, en énergie propre à seulement 6 MW en 2025. Donc, il y a de nombreux projets qui ont été annulés. Le changement de direction entraîne des pertes financières pour les municipalités parce qu'ils tiraient des revenus de ces installations et de ces projets-là. Ça pourrait aussi mettre donc en danger certains services municipaux si on perd des revenus de taxes comme ça. Par contre, la réglementation en Alberta reste favorable aux micro-installations, donc les installations très petites, là, je crois de moins de 1 MW, comme par exemple les panneaux solaires sur les toits des maisons ou sur les édifices publics. Dans ce domaine-là, il y a de nombreux projets qui continuent d'avancer, puis certaines municipalités sont à l'avant-garde.
Et finalement, initiative les enfants inuits d'abord.
Il y a des organismes qui s'inquiètent au Nunavut parce que le financement de l'initiative Les enfants inuits d'abord n'est pas garanti. Cette initiative-là permet d'offrir des bons aux familles pour se procurer de la nourriture à des prix raisonnables, ce qui évite la malnutrition chez les enfants parce que la nourriture dans les territoires canadiens, ça coûte cher. La source de leur inquiétude vient du budget qui a été déposé par le gouvernement fédéral il y a quelques semaines. Parce que dedans, on garantit seulement le financement du programme jusqu'en mars 2026. Il n'y a rien. On ne parle pas de coupure ou de continuation après cette date-là. Fait que les organismes qui gèrent l'initiative au Nunavut ne savent pas trop à quoi s'attendre au-delà de cette date-là. Il y a une intervenante de l'Association des organismes à but non lucratif du Nunavut qui qualifie la situation de franchement scandaleuse. Parce que selon elle, ça fait des années que les organismes du territoire expliquent au gouvernement fédéral que l'insécurité alimentaire augmente chez eux. Pourtant, on ne semble pas les croire ou du moins pas s'en soucier. D'ailleurs, le Nunavut rapporte que le 17 septembre cette année, le Centre alimentaire du Kalouit a enregistré une demande record de 639 repas pour un seul dîner. Elle représente environ 8 % de la population de la ville. De plus, il y a des incertitudes donc liées à ce financement-là. Ça crée de l'instabilité chez les employés, sans savoir si on va avoir un emploi après le mois de mars. On peut se mettre à chercher un autre emploi, puis ben, ça peut créer des problèmes si jamais les programmes continuent. Donc, ça va être à surveiller.
Oui, c'est sûr. Merci beaucoup, Julien. À mercredi prochain.
Avec plaisir.